Comme chaque samedi matin sur Europe 1, Le Monde vu par Régis Le Sommier de Paris Match, qui sera en ligne avec nous dans un court instant. Mais d'abord, la parole à François Clémenceau. François, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, avec vous, nous nous intéressons ce matin, François, à l'élection pour le Parlement israélien. Donc, les législatives, elles se déroulent mardi. Et au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a promis cette semaine, voici quelques jours, à la toute dernière minute, de purement et simplement annexer, en cas de victoire, une partie de la Cisjordanie.
Oui, on a tendance à être très critique de Benjamin Netanyahou, et pour plein de bonnes raisons qui tiennent tout simplement à ce que nous, ici en Europe, majoritairement, nous souhaitons voir un jour la paix entre Israéliens et Palestiniens, avec deux États qui vivent côte à côte, en toute sécurité. Mais il y a tout de même quelque chose que les détracteurs de Netanyahou reconnaissent, c'est qu'en politique intérieure, c'est un animal redoutable, capable de tous les coups pour gagner, surtout lorsque les sondages ne sont pas bons et que le vent faiblit dans les voiles. Alors personne n'interprète autrement cette promesse d'annexer la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte, l'hiver dernier, déjà avant les élections au terme desquelles il n'est pas parvenu à former une majorité durable, il avait déjà laissé entendre qu'il pourrait annexer la zone C de Cisjordanie, 60% du territoire.
Donc si je comprends bien, à chaque fois c'est un coup de barre très à droite que donne Netanyahou pour se rallier les voix des colonies et des ultranationalistes.
Exactement, parce que sous les trois derniers mandats de Netanyahou, l'extrême droite n'a cessé de progresser, pas toujours de façon très unie, mais suffisamment pour faire de Netanyahou un personnage central et non plus centriste, l'obligeant ainsi à faire des coalitions non plus seulement entre la droite et le centre, mais de plus en plus entre la droite et l'extrême droite. Et le problème, c'est que cette fuite en avant va trop loin, elle risque de faire perdre à Netanyahou d'autres alliés, plus seulement à l'intérieur chez lui, mais à l'extérieur.
Par exemple ?
Eh bien, on a bien compris à quel point il était important pour lui de parvenir à nouer des relations de confiance durables avec des chefs d'État aussi importants que Donald Trump, Vladimir Poutine, les premiers ministres d'Europe centrale, ou de façon plus discrète avec les princes héritiers du Golfe. Mais là, en promettant d'annexer la vallée du Jourdain, il s'est mis à dos la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Union Européenne, les Nations Unies et aux États-Unis, son seul et véritable allié stratégique. J'ai pu rencontrer cette semaine l'un des anciens ambassadeurs américains à Tel Aviv. C'était le jour où Donald Trump venait de limoger son conseiller à la sécurité nationale,
Monsieur Bolton, oui.
Très proche de Netanyahou. Eh bien, cette nouvelle était pour lui secondaire, tant il redoute que le fameux plan de paix pour le Proche-Orient de Donald Trump soit très en deçà des attentes des populations juives et arabes. Autrement dit, en faisant le pari du seul contre tous, Netanyahou prend le risque de ne pas être crédible à l'intérieur ou d'exaspérer à l'extérieur, ce qui pourrait bien le ramener à la case départ. On se croirait dans un manuel de survie, mais pas du tout dans une recherche de porte de sortie la plus digne.
Merci beaucoup François Clémenceau. Avec nous également ce samedi matin sur Europe 1, de l'autre bout du monde où il se trouve, c'est pour ça que la liaison n'est que téléphonique, Régis Le Sommier de Paris Match. Régis, bonjour.
Bonjour Bernard.
Écoutez, dans Paris Match, cette semaine, il y a plusieurs pages, essentiellement de photos, mais pas que, sur les ravages de l'ouragan Dorian sur les Bahamas, ce coin de paradis terrestre qui a été très largement, totalement dévasté. Pas la capitale, hein, Nassau en l'occurrence, et ses super riches et ses Rolls-Royce en or massif, mais d'autres îles où habitent des gens comme vous et moi. C'est terrifiant parce que c'était le paradis et c'est devenu rien, l'enfer absolu, c'est bien ça.
Ça a été l'enfer absolu pendant quelques heures, au moment où cet ouragan, dont il faut rappeler la puissance catégorie 5, on a eu des vents à plus de 295 km/h et le record a enregistré 354 km/h. Donc les îles l'ont pris de plein fouet, et en particulier les îles du Nord. Et notre envoyé spécial, donc Olivier O'Mahony, s'est rendu sur l'île de Grand Tabaco, qui est une île qui est restée, en plus d'avoir subi ce gigantesque ouragan, elle est restée pendant plusieurs jours sans aucun secours. Il a pu se rendre justement avec les premiers secours qui sont arrivés sur l'île. Donc beaucoup de colère chez les habitants, l'impression d'être abandonné, l'impression d'être seul au monde, l'impression de ne plus avoir rien du tout, ce qui n'est même pas qu'une impression puisque c'est la réalité. La plupart des maisons qu'on montre justement en photo ont complètement disparu. Vous savez, il y a plusieurs types d'ouragans. Il y a des ouragans qui inondent complètement des zones. Là, en l'occurrence, on a l'impression que tout a été arraché. On a une double page où on voit un fatras de toits, de poutres, de choses. C'est absolument incroyable.
Sur des photos absolument effarante, avec voilà, des gens qui témoignent et qui disent qu'ils entendaient les clous du toit de leurs maisons en bois, certes, qui s'arrachaient les uns après les autres, qui sautaient avec le vent à 300 à l'heure.
C'est exactement ça. Ces scènes sont... Alors, on sait que les ouragans, bien, on en a chaque année. Il y a des années où ils sont plus intenses et des années où ils sont moins intenses. Moi, j'en ai couvert un certain nombre quand j'étais correspondant aux États-Unis. Ouais. Mais celui-là, je peux vous dire, un catégorie 5, quand on le prend plein fouet comme ça, les Bahamas, malheureusement, comme vous le disiez dans votre introduction, ne sont pas prêts de redevenir ce paradis aux eaux turquoises qu'on avait l'habitude de voir sur les cartes postales.
Mais je vous rappelle que le bilan officiel est toujours de 43 morts, bilan qui est probablement sous-estimé et susceptible encore d'évoluer. Merci beaucoup, en tout cas, Régis Le Sommier, et vous aussi, hein, François Clémenceau, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.